Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, ça y est, c'est parti pour notre périple du goût. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Produits de saison, recettes, conseils et débats autour de notre alimentation. Notre menu est complet. C'est la reine des bons plans, alors normal qu'elle trône à la table des bons vivants. Anne-Laure Femme est avec nous. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous, et vous allez voir rouge avec moi tout à l'heure.
Vous avez jeté un sort au ketchup aujourd'hui.
Oui, on va se faire saucer.
Blanc, jaune, rouge et rosé, ce sont ses couleurs préférées. Il vous aide à choisir le vin pour accorder vos plats. Olivier Poul, c'est de la partie.
Bonjour, et moi je vous emmènerai faire une escapade sur la plus belle des routes du vin de France.
Oh, laquelle ?
Je vous le dis tout de suite.
Ouais, allez.
Allez, on prendra la direction de l'Alsace.
Ah, c'est beau. Oh. Marion Sauveur nous rejoint très vite avec son journal de la cuisine. Et notre dossier du jour sera consacré aux cuissons idéales pour notre santé avec le docteur Afid Alol qui vient de sortir un livre sur le sujet. Jean-Luc Petit-Renaud poussera un coup de gueule ce midi, vous entendrez. Vous les voyez sur nos étals, c'est le temps des cerises. On vous emmène les cueillir dans le Vaucluse avant de vous donner des idées pour les déguster. Et puis pour rester sur une note sucrée, nous finirons avec un joli cake au citron de Menton, un dessert que nous partagerons avec un chanteur, mais comédien que nous aimons beaucoup. On se réjouit, Marc Lavoine sera notre invité sur les coups de midi. À table les amis. Et bien voilà, le temps que tout le monde s'installe bien confortablement, on démarre avec les goûts de la semaine. Vous, derrière votre poste, à la maison ou dans votre voiture, réfléchissez, quel est le goût qui a marqué votre semaine ? Un produit, une rencontre, une adresse ? On va commencer par vous, Anne-Laure Femme.
Moi, c'est le goût du sushi et de l'angoisse, parce que j'ai lu un thriller gastronomique passionnant qui a été un best-seller au Japon. Ça s'appelle « La cuisine du dictateur ». C'est l'histoire de Kenji Fujimoto, l'histoire réelle, qui a été cuisinier personnel d'un dictateur nord-coréen nommé Kim Jong-il de 1988 à 2001. Eh bien, c'est vraiment savoureux, glaçant et drôle à la fois. Je le recommande chaleureusement. La cuisinier du dictateur aux éditions Hugo.
Eh ben voilà, le cuisinier du dictateur, ça fout les jetons cette histoire quand même. Olivier Poul, votre goût de la semaine. Pas de ça chez nous, non ?
Alors mon goût de la semaine, c'est plutôt un petit coup de gueule, tiens. Il commence à faire beau, l'ambiance se réchauffe, ça se réchauffe dans les restaurants, et quand vous commandez un verre de vin rouge ou une bouteille de vin rouge, elle arrive à une température qui ne me convient pas.
Ah bah oui.
Voilà, j'ai envie de dire à nos amis restaurateurs et nos amis sommeliers, une bouteille chambrée dans un restaurant dans lequel il fait 20 degrés, ce n'est pas la bonne température de service. Il faut que le vin soit servi, un vin rouge, soit servi entre 14 et 15 degrés. Donc si vous n'avez pas une armoire pour les garder, mettez-les dans un petit seau avec un peu de glace, faites-les tomber en température, parce que c'est tellement dommage de boire du vin trop chaud.
Oui, c'est trop chaud, c'est pas agréable ça. Mon goût de la semaine, moi c'est le goût de la mimolette. J'étais dans le nord, dans le Pas-de-Calais, à la ferme du Wint pour fabriquer de la mimolette. Figurez-vous, c'est des émissions que j'enregistre pour cet été pour TF1. J'ai trouvé une famille de passionnés de mimolette bio au lait cru. Une mimolette affinée, extra vieille, avec ses petits arômes de noix.
Bien orange.
Ah oui, bien orange. Ah oui, c'est le roucou qui est un colorant naturel qui donne cette couleur. C'est sublime la mimolette. Qu'est-ce qu'on boit avec une vieille mimolette, Olivier Poul ?
Alors, avec une vieille mimolette, on boit un vin blanc, bien évidemment, et on peut aller sur des vins blancs de type un petit peu ancien, un peu oxydatif. Vous savez, la mimolette, c'est un tout petit peu la même famille que les comtés. On est dans ces pâtes
qui ont quand même du goût. Oui.
Exactement. Donc, alors, un vin jaune du Jura, pourquoi pas, mais simplement un Savagnin ou un vieux Chardonnay.
Oui, c'est bien ça. Mettez de la mimolette dans vos salades, ça fait bel effet.
Râpée partout.
Oui, ouais, on parfait. Peut la râper, on peut la mettre en cube. Tous à la mimolette. Allez, chaque samedi, on démarre l'émission par une balade sur un marché. Direction Tarascon, une ville des Alpes qui regorge de jolis produits de saison. Marion Sauveur a joué au tartarin de Tarascon.
Et les fraises, les courgettes, la salade, quelques abricots, les pois gourmands. Enfin, j'ai une recette familiale au chorizo. C'est délicieux. Puis j'achète aussi des produits d'anchoyade, d'olive chez Fred et Sandrine. Là. C'est pour l'apéritif. Pas toujours avec modération.
J'ai acheté des fraises à ce monsieur là, qui est producteur. J'ai acheté des légumes à un producteur bio là-bas, des salades, des courgettes, des haricots verts, bon, qui sont encore un peu chers, mais comme on n'est que deux, on se fait une poignée, ça marche très bien.
Alors les olives, j'achète des noyautés que je farcis moi-même avec de la pâte de anchois. Et puis bien sûr les escabèches qui sont fameuses.
C'est la première fois que j'achète les courgettes jaunes.
Nous avons acheté des fraises de Carpentras, la Cléry,
des artichauts de Provence et du fromage de chèvre de la Camargue. Et puis des olives pour l'apéro avec un bon petit rosé de Provence ou un bon petit Ricard.
On veut cet apéro maintenant.
Avec modération, mais avec plaisir. On sait vivre là-bas, du côté de Tarascon. Voilà, faites le tour des petits marchés de producteurs, comme ça, ce qu'on appelle les marchés paysans. Ça respire le produit local, comme on vient de l'entendre. Ça fait plaisir, ça, Anne-Laure.
Moi, je suis très admirative des olives farcies maison, quand même, parce que je n'aurais jamais pensé. Ça doit être assez fastidieux, mais ça va être délicieux.
Et cette dame qui va acheter pour la première fois des courgettes jaunes, c'est vrai qu'elles sont délicieuses.
Elles sont assez douces.
Assez douces, oui.
Et puis, on a les premières courgettes, on a les premières fleurs de courgettes aussi en ce moment.
Ah,
délicieuses, la fleur de courgette.
En beignet.
Qu'on peut farcir.
En beignet ou qu'on peut tout simplement farcir de légumes. Vous faites une petite ratatouille et vous farcissez votre fleur de courgette avec
du fromage
la ratatouille. Un petit peu de fromage blanc.
Un petit chèvre frais, oui. Hommage à Jacques Maximin, qui est le grand inventeur de la fleur de courgette cuisinée, le fruit et la fleur en même temps. Allez, ne bougez pas les amis, on reste dans le sud, le temps de changer de département, on vous emmène dans le Vaucluse, le pays des cerises. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Vous aimez les cerises ? Ça tombe très bien parce que Laurent, vous nous emmenez avec toute l'équipe sur les traces de ce fruit rouge que beaucoup adorent.
Absolument Justine, la table des bons vivants est à la poursuite du diamant rouge ce samedi. Le temps des cerises, c'est maintenant. Alors c'est une famille nombreuse, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Anne-Laure Femme, on a tous des souvenirs comme ça d'enfance liés à des cerisiers.
Des souvenirs tachés moi surtout,
oui, ben ça tâche,
avec la maman qui vous gronde.
Ça c'est vrai.
Mange proprement Anne-Laure, oui voilà.
Il y a de la cerise en Belgique Olivier.
Oui, oui, oui. Mais moi, je vis un drame, c'est que malheureusement, je suis devenu allergique à la cerise à l'âge de 20 ans.
Ouais. C'est pas vrai. Ah oui.
Et je ne peux plus manger de la cerise crue. Je peux la manger cuite, mais non pas crue. Mais... c'est de l'allergie croisée souvent.
Mais c'est le fruit qui se mange, pas le noyau, hein, vous savez.
Ah, oui. Le noyau, je le crachais très bien d'ailleurs.
Très bien, c'est bon. Toujours fort à ça.
Oui. J'étais plutôt champion dans mon quartier. Malheureusement, je peux la manger cuite, mais pas crue.
Anne-Laure, on pourrait dire qu'il y a trois clans qui s'affrontent en fait.
Oui,
au
royaume des cerises, Laurent, vous avez trois clans qui s'affrontent pour le trône de. Juste le cœur des Français. Alors vous avez la maison Bigaro, c'est 80% de la production de cerises en France quand même, et c'est celle qu'on connaît tous. Hein,
c'est une famille, oui, les
voilà,
Bigaro.
Qui est largement représentée sur les étals, et on les appelle pourquoi comme ça ? Parce qu'elles ont des bigarrures et un aspect un petit peu bariolé sur leur chair, et dans la famille des Bigaro, on va retrouver moi, ma petite préférée, et d'ailleurs la plus facile à trouver, c'est la Burla, qui représente d'ailleurs à peu près 30% de la production de cette maison
et
Bigaro.
Oui, on va aller la récolter dans le Vaucluse
elle
dans un instant.
Elle est sucrée, fondante, rouchon, elle est magnifique. Vous avez la maison Guigne aussi, et la Guigne, c'est une variété très ancienne de cerises qui est utilisée surtout pour la fabrication du... Olivier.
Du guignolet.
Du kirsch.
Ah,
non
du kirsch.
Et du guignolet là aussi.
Et du guignolet.
C'est
jamais
surtout
goûté,
la griotte hein, pour le kirsch. Hein.
Et aussi, elle est très prisée en fruits de table pour les clafoutis également. Et je l'aime beaucoup pour sa saveur très acidulée, un peu plus que la Bigaro. Et la troisième maison, maison griotte.
Ah oui.
Les griottes qui sont aussi appelées d'ailleurs les cerises aigre. Et la variété la plus connue, c'est laquelle ? La Montmorency. Pourquoi ?
Elle a pratiquement disparu à côté de Paris, malheureusement.
Ben
on
voilà,
voit plus.
On peut rien vous cacher.
Mais
on peut
voilà,
rien vous cacher,
bravo, ça
Laurent.
C'est du lapsus, dis donc.
À la fin du 19e siècle, les Parisiens se rendaient à Montmorency. Vous m'avez troublé, Laurent. Pour récolter et déguster des cerises aigrelettes. Et vous pouvez les utiliser en dessert. Alors moi, j'adore aussi les griottes séchées, par exemple parsemées dans des salades. N'hésitez surtout pas.
Et bah oui, et puis la griotte, moi je l'aime beaucoup dans un clafoutis parce qu'avec sa petite note aigre, elle va bien contrebalancer avec la douceur justement du lait et du sucre, ça fait un bel équilibre. Olivier Pouls, la nature est bien faite parce qu'elles vont nous suivre tout l'été les cerises là. Hein.
Bah oui, ça a commencé en juin, bon on parlait des fameuses Bigaro, la Burla c'est la plus précoce, hein, la Napoléon qui va arriver. Et puis un petit peu plus tard en juillet, on va avoir la Sweetheart, qui est une variété tardive mais qui est plutôt de bonne tenue. Et puis jusqu'à la mi-août, avec notamment les cerises blanches
d'Arcini, c'est beau, ça.
Qui clôturent le bal, et là, malheureusement, on passera à autre chose.
Et oui, ce sera la rentrée, mais on n'y est pas encore. Profitons-en. Alors justement, direction le Vaucluse, le département est le premier producteur français de cerises. Marion Sauveur s'est baladée entre les cerisiers des Coteaux du Ventoux, une cerise qui va recevoir prochainement l'indication géographique protégée. Alors cueillons les cerises avec René Reinhardt, qui est producteur à Malemort du Comtat.
Nous sommes au milieu d'un champ de cerisiers où nous pratiquons la cueillette de la cerise Burla. C'est la première des cerises que l'on trouve un peu en volume conséquent sur la France. On a commencé la semaine dernière à la récolter. On ramasse les plus mûres, on laisse celles qui sont roses pour ramasser après les cerises qui sont de cette couleur.
Elles sont bien rouges là, hein ?
Ah là, elles sont bien rouges, oui, elles sont bien mûres. Donc en gros, une variété comme la Burla, c'est 10 jours. Passé 10 jours, on passe à la variété d'après.
Et ces cerises, elles se récoltent à la main, hein ?
Tout à la main, bien entendu, pour pas qu'elles soient abîmées.
Donc là, ça y est, elles sont mûres, donc on peut les récolter.
C'est ce que nous faisons, on les attrape comme ça, entre deux doigts, et on les fait pivoter sur elles-mêmes pour que ce que l'on appelle la queue, eh bien, elle cède sur la fête de la rotation. Excusez-moi, je ne peux pas me retenir de déguster. Elles sont superbes, elles sont délicieuses.
Elles sont sucrées, hein. Comment on fait pour les choisir ?
Une queue bien verte fait que la cerise, elle est fraîche. Mais après, une queue de cerise, vous pouvez les garder pour faire des tisanes.
C'est une bonne astuce.
Voilà.
Mais évidemment, on ne jette rien. Merci beaucoup René Reinhardt. Nous étions à Malemort du Comtat, voilà, dans le Vaucluse. On ne jette rien. Même les noyaux, on peut les utiliser ensuite pour faire des cuissons à blanc en pâtisserie. Vous savez, on les met sur les pâtes à tarte,
des
comme ça.
Des pois de cuisson naturels.
Voilà, c'est des pois de cuisson naturels, exactement. Donc, faut rien jeter dans la cerise. Alors, le dessert le plus emblématique, on le connaît tous, c'est le clafoutis. Mais on peut faire aussi de belles poêlées de cerises, juste comme ça, dans un petit peu de beurre. Mmh. Vous servez ça avec une glace à la pistache et des amandes fraîches, parce que c'est la saison de l'amande fraîche en ce moment.
Oh, j'adore.
C'est un bel accord, l'amande et la cerise. Vous validez, Olivier Pouls ?
Oui, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la cerise avec le salé. Et je trouve qu'il y a des utilisations
avec
qui sont...
Avec le magret.
Voilà, exactement, qui sont très judicieuses. Une poêlée de cerise, justement, vous en parliez, avec un magret juste... saisie sur la plancha, c'est magnifique.
Et bien voilà, tous aux cerises. Allez, bientôt l'heure du journal de la cuisine avec notre Miss Cerise, Marion Sauveur. On va passer en revue les cuissons idéales pour notre santé avec un docteur qui sera avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, comme chaque samedi, la table des bons vivants sort les tréteaux pour vous accueillir et partager un moment gourmand avec vous.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Marc Lavoine viendra casser la croûte avec nous sur les coups de midi, mais pour l'instant, c'est l'heure du journal de la cuisine de Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Oh mais magnifique, ces cerises en boucle d'oreille.
Elles me vont bien, n'est-ce pas ?
Ah oui, sur les branches de lunettes, c'est pas mal aussi. Bah, vous avez le casque sur les oreilles.
C'est
forcément.
Saut 2019, Marion. Vous êtes magnifique.
Eh bien, on vous écoute, voici les titres du journal de la cuisine.
Des amidons modifiés, des conservateurs et seulement 63% de poissons, c'est la recette du poisson pané industriel. L'Association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV l'a analysé. Ne pas consommer de graines, manger peu de produits laitiers ou de fruits et légumes augmenterait le risque de cancer selon une nouvelle étude. Et puis l'alimentation durable est mise en valeur dans une exposition photo, c'est à Marseille.
Alors on s'y attendait, évidemment, il n'y a pas beaucoup de poissons dans le poisson pané, seulement 63% Marion, dans les poissons panés industriels.
C'est ce que révèle une enquête de l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, CLCV. Elle a analysé 42 produits panés à base de poissons et que l'on trouve aussi bien au rayon frais et surgelé de nos supermarchés. Et donc le résultat est décevant. Il y a peu de poissons dans ces préparations adorées par les enfants, beaucoup d'additifs, d'arômes et de sucre ajouté. CLCV regrette que dans une grande majorité des produits étudiés, l'origine géographique du poisson est inconnue, tout comme la méthode de pêche.
Une nouvelle étude révèle qu'une mauvaise alimentation augmenterait le risque de cancer.
Par mauvaise alimentation, les chercheurs entendent ne pas manger assez de graines entières, de produits laitiers, de fruits et légumes, et puis privilégier la consommation de viande. Ce mauvais régime alimentaire favoriserait le risque de cancer colorectal, mais aussi de la bouche, de l'utérus, du sein, du rein, de l'estomac et du foie. Juste après le journal, nous allons continuer de parler de santé et d'alimentation. Ce sera dans quelques instants avec le docteur Afid Alol.
Absolument, on va consacrer un dossier sur les cuissons. Et en cette période de barbecue, c'est important et intéressant de bien cuire. Pour réduire les ordures ménagères, la Seine-Maritime offre des poules.
Elles peuvent ingurgiter jusqu'à 150 kilos de déchets par an, c'est pas mal. La communauté de communes Co-Ostebert propose d'adopter 2 poules pondeuses issues d'une race locale, les poules de Pavilly. Une centaine de familles seront sélectionnées.
On a les œufs, en plus,
c'est super.
Et voilà.
Acteur de notre assiette, c'est le nom d'une exposition photo à découvrir en ce moment à Marseille, Marion.
Portrait de ceux qui défendent l'alimentation durable sur le territoire régional, le supermarché coopératif et participatif marseillais Super Cafouche, des protagonistes de l'agroécologie comme le paysan urbain, des amoureux de la cuisine saine et des circuits courts comme la cantine de la cité de l'agriculture. Les photos sont signées Pascal Delsay et ça se passe sur les grilles du Palais de la Bourse dans le cadre de Marseille-Provence Gastronomie jusqu'à mi-juillet.
Merci Marion Sauveur. Alors bien cuit, à point, saignant, al dente, croquant pour les légumes, le vocabulaire autour retour de la cuisson ne manque pas. Bien cuire, c'est important pour notre palais, mais aussi pour notre santé. Alors nous recevons aujourd'hui le docteur Afid Alol, médecin nutritionniste. Il vient de sortir un livre qui nous éclaire sur le délicat tandem entre la santé et la cuisson. Bonjour docteur Afid Alol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un livre passionnant qui s'appelle « Les super-héros de votre assiette ». Alors ça ne parle pas que des cuissons, vous parlez aussi des fibres, des graisses. Vous faites un petit état des lieux quand même de notre environnement alimentaire et de notre santé.
Tout à fait. J'ai voulu mettre en évidence dans ce livre les aliments qui nous protègent réellement et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans des études. Alors si on doit prendre quelques exemples, des aliments par exemple comme les fibres, qui ont une fonction extrêmement protectrice de notre cancer du côlon par exemple.
Donc dans les légumes, dans les légumineuses.
Dans les légumes, dans les légumineuses et dans les céréales complètes. Mmh. Il y a également parmi les super-héros de ce livre, tous les aliments qui contiennent des oméga-3. Parce que les oméga-3, on est en carence, et alors qu'ils ont une fonction extrêmement importante pour notre santé. La carence en oméga-3 provoque dépression, troubles cognitifs, de mémoire, de concentration. Et à long terme, les gens qui ne consomment pas d'oméga-3, ils sont exposés au risque de la maladie d'Alzheimer.
Alors, on les trouve où ces oméga-3?
C'est ça, on les trouve dans les poissons gras.
Les oméga-3, c'est dans les poissons gras, saumon, sardines,
maquereaux,
anchois. Mais il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que la cuisson peut détruire les oméga-3.
Donc il faut manger des tartares.
Absolument, absolument. C'est ce que je conseille. Le tartare, c'est la meilleure façon de manger du poisson.
Alors vous consacrez un chapitre entier à la cuisson, bien cuire pour bien manger. Pourquoi la cuisson est si importante pour vous en tant que médecin ?
Maîtriser sa santé, c'est maîtriser sa cuisson. C'est-à-dire que la cuisson a été extrêmement importante dans l'évolution humaine. Et si nous avons aujourd'hui des cerveaux plus gros, c'est grâce à la cuisson qui nous a permis de manger de la viande et donc d'avoir de l'énergie et des nutriments pour développer notre cerveau.
Et oui, c'est trop cuire qui est dangereux en fait.
C'est trop cuire. Et alors aujourd'hui, quand il y a des cuissons excessives, ça génère des molécules qui attaquent le cerveau.
Alors bien cuire, c'est important. On va griller, rôtir, saisir et sauter dans un instant à la table des bons vivants. La saison des barbecues démarre. Alors on va justement parler des cuissons à faire et à ne pas faire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. En cuisine, il n'y a pas 36 solutions. Il y a tout ce qui est cru ou tout ce qui est cuit. Et justement, vous parlez cuisson avec votre invité Laurent à la table des bons vivants.
Absolument, Justine. Il y a le cru et le cuit, comme disait le grand ethnologue Lévi-Strauss. Et cuire en cuisine, bah oui, j'aime bien citer comme ça voilà, les ethnologues de temps en temps. Cuire en cuisine, c'est tout un art et on en parle ce samedi avec le docteur Afid Alol, auteur des super-héros de votre assiette aux éditions Larousse. Afid Alol, la saison des barbecues démarre. Vous mettez en garde d'ailleurs dans votre livre contre les cuissons non maîtrisées.
Absolument. Il est tout à fait possible de faire du barbecue et de grillade de qualité. Les conditions, c'est choisir de bons aliments, c'est-à-dire de la bonne viande, nourrie naturellement. Ensuite, penser à des marinades et surtout, il faut dégraisser la viande. Une des manières pour protéger notre viande pendant la cuisson, c'est les marinades. Il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant que quand on marine de la viande ou du poisson ou de la volaille dans des marinades variées, notamment ail, oignon et citron et autres marinades.
Mais pas de matière grasse alors pour le coup
pas
là.
Pas de matière grasse.
D'accord.
À partir de là, on protège notre viande de l'oxydation.
Bah, c'est intéressant ça.
Le problème, c'est que le feu avec l'oxygène et la lumière oxyde les viandes. Et ce qu'on veut, c'est protéger la viande de cette oxydation. Le fait de mariner évite l'oxydation de la viande et donc on peut manger sans problème.
Et du coup, en pratique, une marinade comme ça, mais sans matière grasse, comment vous faites concrètement ?
La matière grasse n'est pas interdite. Et simplement, il faut une certaine modération.
D'accord, on en met un petit peu quand même,
voilà,
mais pas trop.
De l'huile d'olive, par exemple, est tout à fait autorisée.
Je suis soulagée.
Mais Olivier, ma côte de bœuf, moi, je ne peux pas la mariner quand même.
Olivier
moi, j'ai
Pouls,
allumé une belle
fan
braise.
Du barbecue.
Bah, et moi, j'ai allumé une belle braise, j'ai mis du charbon, peut-être même un petit peu de bois parce que ça donne du goût. J'ai ma côte de bœuf, je ne vais pas la mariner. Là, je vais la mettre
on va la cuire directement. Il faut aussi avoir une bonne chaleur des braises. De toute façon, il ne faut pas avoir des braises braises trop fortes. Le problème du barbecue, c'est que souvent, on le démarre trop tôt. Et il faut des braises mourantes et pas trop ardentes
exactement,
non plus.
Exactement, exactement. En tout cas, pour répondre à cette question, la règle quand on fait de ce type de grillade, c'est de gérer le couple température-durée. Soit vous avez une température douce plus longue, ou alors une température élevée sur une durée courte. Il faut trouver l'équilibre, c'est un compromis. Il n'y a pas d'équation miraculeuse qui permettrait de ne pas avoir de substances indésirables qui apparaissent. La chose la plus efficace, c'est de mariner, parce que c'est une protection, comme si on mettait un bouclier sur notre viande pour lui éviter l'oxydation.
Alors pour les légumes, vous dites qu'il faut du cru et du cuit, il faut mélanger les deux. C'est ce que disaient nos grands-mères déjà, il faut manger du cru et du cuit.
Il faut savoir que les fruits et les légumes sont des aliments qui ont été optimisés par la nature pour nous donner le maximum de nutriments avec le minimum de calories. Donc ce sont des aliments très précieux pour notre santé. Évidemment, à chaque fois qu'il est possible de manger des légumes crus, il faut les manger crus parce qu'on récupère la totalité des nutriments.
Quel genre de légumes vous conseillez de manger cru ?
Par exemple, les carottes. Maintenant, je pense que le brocoli aussi.
La courgette, on rentre dans la saison de la courgette.
La courgette, je pense que c'est un peu plus difficile, mais ça dépend des goûts de chacun.
Mais juste râpé ou en tagliatelle, c'est délicieux. Avec une petite marinade de jus de citron, par exemple, et de coriandre.
Absolument, absolument. Donc, en fait, ça dépend des goûts de chacun.
Cela dit, la mode n'est plus à la cuisson des légumes telle qu'on l'a connue il y a encore quelques années, ces fameuses cuissons à l'anglaise.
Bouillies,
ou les petits pois sortaient marrons, où les choux-fleurs n'avaient plus de tenue. Enfin, aujourd'hui, on cuit quand même beaucoup moins, on chauffe à peine presque certains légumes.
Tout à fait, et vous avez raison, parce qu'en fait, la cuisson en immersion dans l'eau très chaude, elle expose les fruits et les légumes en particulier à deux problèmes. Le premier, c'est que la chaleur détruit les nutriments. Et deuxièmement, le fait d'avoir des légumes dans l'eau, toutes les vitamines qu'on appelle hydrosolubles, elles passent dans l'eau.
Oui,
et donc on
ne
les a pas dans notre assiette.
Plus.
Donc il y a deux raisons de ne pas bouillir justement les légumes.
Alors vous dites en revanche que certains légumes sont meilleurs cuits pour la santé. C'est pas toujours ce qu'on imagine en premier. C'est vrai que la tomate, on va rentrer bientôt dans la saison de la tomate, c'est cuite qu'elle est le meilleur pour notre santé, la tomate.
Alors justement, la tomate, quand elle est cuite, elle multiplie par 4 ou 5 le taux de lycopène. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant de manger la tomate plutôt cuite. La sauce tomate est beaucoup plus riche en antioxydants que la tomate crue.
Et oui, c'est une substance, le lycopène, qui est bénéfique pour nous, pour les hommes, pour lutter contre la prostate.
Le cancer de la prostate. Et aussi contre les maladies cardiovasculaires.
J'ai l'impression qu'il ne va pas beaucoup aimer les frites, notre ami.
Oui, les frites alors, qu'est-ce que vous en pensez des frites ?
Alors les frites, pour moi, ce sont des aliments occasionnels, car
la cuisson est trop vive en fait, c'est ce que vous dites dans votre livre. Les fritures, les cuissons rôties au four à chaleur trop élevée, ce n'est pas bon quoi.
Effectivement, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire aux gens de manger des frites s'ils veulent manger des frites.
Ah bah non, sûrement pas.
Vous avez un Belge là.
Voilà. Simplement, un élément important, c'est qu'il ne faut pas les brunir trop. Les frites, quand elles sont simplement dorées, ils ne sont pas chargés du fameux acrylamide, qui n'est quand même pas très bon pour notre santé. Quand on veut manger des frites, il vaut mieux les cuire de façon légère.
C'est comme le pain grillé, vous dites qu'il faut juste qu'il soit toasté, doré, pareil, voilà. mais pas carbonisé, pas trop noir.
Exactement.
Moi,
exactement.
Je me rappelle, quand j'étais enfant, ma grand-mère me faisait un pain grillé, mais directement sur les braises, comme ça, du foyer. Et après, avec le couteau, elle grattait toute cette partie noircie, parce qu'effectivement, on savait déjà...
Vous dites non, laisse ça, c'est bon, c'est
non,
bon.
Non, c'est
bon.
Vrai, non, mais c'est pas bon, ça a pas un bon goût. Mais voilà, juste doré. En fait. Il faut savoir s'arrêter à temps, quoi.
Absolument, absolument.
Allez, on continue à passer sur le grill, les cuissons idéales pour notre santé. Il va être question des fameuses céréales que nous donnons à nos enfants. Il y a des trucs intéressants, vous allez voir, sur le sujet. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ce samedi, à la table des bons vivants, on parle cuisson avec Laurent Mariotte et son invité, parce qu'on est d'accord, hein, bien sûr, c'est ce qui fait presque tout dans la dégustation d'un plat.
Bien cuit, croustillant, doré, quand elle est réussie, la cuisson laisse de bons souvenirs et de jolis parfums. Mais il faut savoir la maîtriser. Le docteur Afid Alol, auteur des super-héros de votre assiette, est à notre table pour nous aider à mieux cuire. Docteur, même les féculents et les légumineuses ne doivent pas être cuits n'importe comment.
Alors effectivement, pour les légumineuses, moi je les considère comme des trésors nutritionnels.
Les lentilles, les pois chiches,
exactement.
Les fèves.
Donc là, la cuisson est obligatoire, on ne peut pas les manger crues. Et donc il y a des règles du jeu qui sont le trempage toute la nuit, donc ensuite les préparer comme on souhaite par la suite.
Vous écrivez que parmi les sujets à risque, il y a les enfants, hein, dans votre livre vous en parlez beaucoup, et vous parlez notamment des fameuses céréales du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier et de dangereux, ces céréales?
Alors,
on savait qu'elles étaient trop sucrées déjà. Hein.
Exactement. L'idéal pour les enfants, d'abord, c'est de ne pas les acheter plein de sucre. Il vaut mieux acheter des céréales complètes et pas trop sucrées et pas trop brunies.
Mais vous dites quoi? Qu'elles sont trop cuites, celles qu'on achète dans le commerce?
Vous le voyez, en fait. Il y a des céréales qui sont beiges, qui sont blanches. Et puis vous voyez des céréales, par exemple,
toastées,
qui sont... On voit tout de suite qu'il y a un brunissement. Et dès qu'il y a ce brunissement, c'est la signature, parfois, de l'existence de cette substance qui n'est pas très bonne pour la santé.
Alors, en cette période d'examen, docteur, il y a certains aliments, au-delà des cuissons, qu'il faut privilégier pour le cerveau, pour la concentration. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, il est impératif de manger des aliments complets, particulièrement les céréales complètes. Parce que les céréales complètes permettent d'avoir une distribution du glucose progressive.
Un riz complet, un riz rouge de Camargue, par exemple.
Exactement, du pain complet, des céréales complètes, des pâtes complètes, tout doit être complet.
Oui, ça donne une énergie durable, de bonne qualité, contrairement aux produits raffinés.
Absolument.
Hein, où c'est du sucre rapide, quoi.
Ça, c'est le premier point. Parce que ça maintient l'attention et la réflexion sur une longue durée. Le deuxième point important, c'est que le cerveau, il est composé en grande partie d'oméga-3. Et les oméga-3, ce sont des briques du cerveau. C'est-à-dire que toute la réflexion, la possibilité de résoudre des problèmes, dépend en partie d'un cerveau qui est nourri avec les bonnes graisses. Donc je conseille...
De réviser avec une boîte de sardines à côté de soi.
Et bah, par du
exemple,
pain complet.
Une boîte de sardines à côté de soi ou des graines de lin dans son bol de céréales avec des flocons d'avoine, des choses comme ça, avec des fruits, les fruits par exemple, les myrtilles, tous ces fruits rouges. Donc le matin, avant l'examen, un bol de céréales complète avec des fruits. Et puis un yaourt avec des probiotiques, c'est-à-dire des
yaourt
bactéries
lactiques. Yaourt de chèvre, de brebis, yaourt, au lait de vache.
Voilà, idéalement avec le moins de graisse possible. Et puis là, on est équipé pour attaquer le premier examen.
Sans oublier qu'il faut quand même travailler un tout petit c'est peu ça. Avant parce que ça n'a jamais permis à personne d'avoir son bac.
Le conseil de Olivier, bonne astuce.
Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y en a peut-être qui arrivent justement. Eh bien, merci beaucoup docteur Afid Alol d'être venu à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre, Les super-héros de votre assiette, les aliments qui vous sauvent la vie, aux éditions Larousse. Merci docteur.
Merci à vous et j'ai été ravi de passer ce moment avec vous autour de la table des bons vivants.
Plaisir partagé.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1, 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart, c'est l'heure de retrouver l'ami Jean-Luc Petit-Renaud. Alors certains d'entre vous pensent déjà aux vacances. Après de bonnes tables, vous passerez peut-être quelques nuits à l'hôtel. Et à ce propos, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud a envie de pousser un petit coup de gueule. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Salut mes bons vivants, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit. Eh bien moi, j'ai passé une mauvaise nuit. Je suis furax contre l'hôtellerie de chaîne. Je passe une nuit dans une chambre d'hôtel, je passe un petit coup de fil à l'accueil et je dis « j'aimerais que l'on me monte un plateau de petit déjeuner en chambre ». Et là, la surprise est magnifique, c'est « mais il fallait prévoir, monsieur ». Alors j'adore cette expression « il fallait le prévoir avant ». Avant, eh bien, c'est toute une mécanique qui nous échappe. Et à côté de ces chambres d'hôtel, de ces directeurs qui n'ont rien compris, ils laissent une très large place encore à une belle petite hôtellerie familiale. Aussi l'idée des gîtes. Il suffit simplement de chercher un peu et on trouvera un endroit où on sera ravi de vous accueillir avec un petit déjeuner. On aura fait un cake, on aura fait une tarte aux prunes, on aura fait des choses que pour vous. Alors ça me plaît. Le côté inhumain de la nuit et de la machine à sommeil, j'en ai ras-le-bol.
Eh ben, on est d'accord, il est colère et il a raison.
Et il y a encore pire, c'est que dans ces hôtels de chaîne, le petit déjeuner, qu'il soit en chambre d'ailleurs ou pas, en général ne vaut pas clou.
Ah bah, de la biscotte, toute l'année, zéro produit de saison. J'ai encore fait l'expérience la semaine dernière dans un petit hôtel. Du jus d'orange
en brique. Des céréales à la crinoline.
Et puis toujours la banane, la pomme qui vient d'Afrique du Sud, qui a fait 6 mois de chambre froide. Il y en a marre, mangeons bien. Alors, vive les chambres d'hôtes, vive les gîtes, les hôtels de charme. Bref, il y a le choix, franchement, aujourd'hui. Il y a Bienvenue à la ferme aussi qui peut vous accueillir.
Ouais.
Il y a de quoi faire. Allez, dans un instant, ne bougez pas. Nous accueillerons une belle voix de la chanson française. Je peux vous dire qu'on est ravis de le recevoir. Un homme généreux sera des nôtres. Marc Lavoine sera à la table des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Bon samedi à la table des bons vivants. Marc Lavoine, notre invité, est en train d'arriver. Alors avant de le retrouver pour de vrai dans notre beau studio Coluche, on écoute le nouvel extrait de son dernier album, Ma Papou. Marc Lavoine sur Europe 1. Ah, mais ça fait du bien, Ma Papou, le nouvel extrait du dernier album de Marc Lavoine. Et le bon vivant, Marc Lavoine, est notre invité. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité.
Ah bon, on est ravis de vous recevoir.
Je suis très heureux.
Vous n'avez que des fans autour de la table, dans le studio en régie, il y a plein de gens qui veulent vous voir.
On a chanté vos chansons toute la matinée.
Ça me touche beaucoup.
Mais c'est vrai, c'est
à
vrai.
Mon âge.
On chantait à la fenêtre pour vous faire venir en plus. Tout est vrai. Excellent album, hein, sorti il y a un an, Reviens à toi. Alors tiens, pour reprendre le titre d'une chanson de votre dernier album, comment allez-vous Marc Lavoine?
Je vais bien, très bien.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
Très très bien.
On est ravis parce que c'est vrai que cet album, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il parle d'un sentiment moi, que j'aime beaucoup, qui est la mélancolie. Je le trouve un peu mélancolique, votre album.
Moi bon, je le suis, moi, je suis mélancolique. Mais j'ai croisé Fabrice Duchini aujourd'hui. J'étais avec ma fiancée, il me dit, dis donc, t'as l'air bien, t'as l'air en harmonie. Alors il l'a regardé, il a fait, ah, c'est bien, parce que c'est vous qui lui donnez cette lumière.
Ben oui, c'est un échange.
Ça, c'est bien, quand ça arrive dans la vie, de temps en temps, faut dire merci.
C'est important pour vous de bien manger, en plus du plaisir, je parle. Ça participe à une hygiène de vie, non, j'imagine.
Faut que je fasse gaffe, d'ailleurs.
Bon, parce que c'est en pleine forme, pour rigoler.
Ben ça va, c'est en pleine forme, parfois un peu trop en pleine forme.
Non.
Vous savez, j'ai des complexes d'enfance, donc je les ai gardés, on a la mémoire de notre enfance. Et mon corps a cette mémoire d'enfant un peu... moqué, et donc je fais attention, et puis c'est vrai que quand on veut lever les bras sur scène à l'âge que j'ai, il vaut mieux faire attention parce que sinon la chemise se soulève et d'un seul coup c'est une catastrophe.
N'importe quoi, vous faites attention parce que votre entourage m'a dit justement que vous étiez en train de devenir de plus en plus végétarien peut-être. Vous diminuez les protéines animales?
Non, je trouve qu'il faut manger un peu de tout, il faut manger dans des proportions. C'est vrai que j'ai un très bon végétarien à côté de chez moi, qui s'appelle, d'ailleurs je vais le dire parce que c'est vraiment, ça vaut le coup, ça s'appelle le grenier de Notre-Dame, et donc ils servent des plats extraordinaires, franchement, du vegan et du bio et du machin et du macro, mais macrobiotique, et j'y vais de temps en temps parce qu'ils font des très bons plats, mais moi j'aime beaucoup plein de choses et peut-être même parfois de la viande.
Quel est votre goût de la semaine, cher Marc Lavoine?
Ah, je suis allé dans un restaurant japonais, qui s'appelle Yen.
Oui.
Et c'est vraiment divin, voilà. Et donc ils ont un tofu qui est un tofu liquide, une sorte de crème, comme ça, c'est une sorte de yaourt formidable. Et donc on mange très bien. Et pour pas justement, je sais que les Japonais parfois tapent un peu dur sur l'addition. Là, celui-ci, il est très raisonnable.
Il est accessible.
Il est très raisonnable et les gens sont très gentils.
Ça fait du bien. J'ai votre voix dans le casque. Là, comment vous faites avec cette voix? Vous l'entretenez? Vous avez toujours eu cette voix? Non, parce que votre voix, elle est incroyable.
Je chante soir et matin. Je chante sur le chemin. Je vais le faire dans mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau.
Est-ce que vous avez des plaisirs inavouables? Je parle côté nutrition, des produits industriels, des barres chocolatées, des sauces, des trucs un petit peu comme ça.
De temps en temps, je peux craquer sur un truc comme ça. Mais non, je préfère une bonne tarte aux pommes faite comme ça, avec une pâte ou brisée ou feuilletée, que plutôt de m'ingurgiter des barres chocolatées avec des mots qui ont un goût de paradis ou des choses comme ça.
C'est ça.
Je préfère plutôt, si je vais dans le dessert, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je vais vraiment dans des choses qui sont bien faites, quoi, qui sont faites à la maison. Quoi.
On a un truc pour vous tout à l'heure qui devrait vous plaire, un joli cake au citron signé d'un grand pâtissier. Alors, on va écouter Anne-Laure Femme qui est à vos côtés, Marc Lavoine, et qui voit rouge en ce qui concerne le ketchup, Anne-Laure, parce que vous voulez nous mettre au ketchup maison. Racontez-nous ça.
Et oui, parce que vous prenez le leader du marché qui s'appelle Heinz, l'Américain. Oui. Il s'en vend 650 millions de bouteilles de ketchup par an. Et or, ces Américains, ils n'ont aucun mérite, j'ai envie de dire, Laurent, parce que c'est inspiré d'une sauce de saumure de poisson préparé depuis longtemps en Chine, qui s'appelait ketchup. Et ensuite, les colons britanniques ils l'ont piqué et ils ont rajouté leurs aromates et leurs légumes bien de chez eux, comme des échalotes.
Oui, alors on a perdu le goût de l'authentique en route et on l'a bourré de sucre en fait.
Et oui, parce que dernièrement, 60 millions de consommateurs l'ont montré dans une enquête et une analyse vraiment fouillée que dans un flacon de ketchup Heinz de 700 grammes, vous trouvez 8 tomates et 22 morceaux de sucre. Soit pour une bonne giclée de ketchup, autant de sucre que dans deux petits beurres, histoire que vous ayez une idée concrète de la chose.
C'est pas très santé tout ça donc?
Ben non, alors mais j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai toujours des solutions dans mon baluchon. Un ketchup Orange Splash qui vient des Trois Chouettes, qui est une super marque qui fait aussi des pickles. Et là c'est à base de carottes à 74%.
Oui, très sucré donc la carotte.
Ensuite,
naturellement.
Ensuite, au vinaigre blanc, sucre de canne qui arrive seulement en quatrième position dans la composition. Du sel, du gingembre, c'est du tout bio. Vous avez aussi une variété jaune au chou-fleur, violette à la betterave, c'est délicieux, ça sent bon le légume.
Alors
et c'est 4,30€ les 270 grammes.
On peut en faire du maison aussi si on veut du ketchup.
Et oui, d'autant plus que c'est facile à expérimenter, idem pour les sauces barbecue piquantes d'ailleurs, et ça revient un peu moins cher. Vous avez quelques variétés de tomates qui sont d'ores et déjà disponibles sur les étals comme les Datarino, mais vous pouvez tout à fait, en attendant la pleine saison de la tomate, prendre des tomates entières en conserve. Je vous fais goûter ma version.
Elle est bonne votre mangue aussi.
Ah, elle est bien mûre hein, la mangue.
Elle est bien.
Hein. Je l'ai taillée pour vous exprès en petit quartier comme ça.
Vous avez taillé maman oui, avec un doigt.
Avec amour, juste avant.
Franchement,
c'est pour Marc Lavoine, je me suis dit on va s'appliquer. Parce qu'on m'a dit qu'il adorait la mangue.
Madame, c'est quoi ça?
Monsieur Lavoine, j'ai l'honneur de vous faire goûter un ketchup maison.
C'est vous qui l'avez fait?
Oui, rien que pour vous.
C'est vrai?
Oui. Alors j'ai fait cuire et mijoter pendant 1h15 de la tomate en conserve. J'ai rajouté du vinaigre blanc, de vin rouge. J'ai rajouté du sel, du poivre et aussi ma petite sauce que j'adore, c'est la sauce Worcestershire.
Ah oui, la sauce anglaise qu'on met dans les tartares.
Ouais. Bien sûr.
Voilà, absolument. Que vous rajoutez et qui donne vraiment une profondeur de goût, je vous encourage à le faire. Et surtout, du sucre, mais vous contrôlez la dose de sucre. Là, j'en ai mis, pour vous donner une idée, 80 grammes pour 2 kilos de tomates. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les gars?
On en pense du bien et on retrouvera la recette sur europe1.fr, Anne-Laure. Et je suis en train de tester aussi un de vos ketchup des Trois Chouettes. Là, il est
chou-fleur.
Jaune. Chou-fleur, celui-là. Ouais.
Il y avait eu un bouquin qui était sorti sur la tomate.
C'est pas mal. Ah oui,
il y avait un livre.
L'or rouge, justement, qui nous montre le business insensé
de Jean-Baptiste
Mallet,
qui a eu un prix Pulitzer depuis.
C'est un très beau livre et son enquête était formidable.
Méfions-nous, justement, des concentrés de tomates et faisons nos coulis, nos sauces à la maison.
Faisons nos coulis nous-mêmes.
Mais bien sûr,
c'est ce que je dis toujours.
Mais on n'arrête pas de le dire ici et c'est le début de la saison de la tomate. On y rentre. Allez, il est bientôt midi, vous l'avez entendu. Nous sommes d'humeur sucrée ce samedi. On se retrouve dans un instant avec Marc Lavoine autour d'un joli cake au citron. Ce sera juste après.
Avec vos coulis, vos cakes, vous me faites rêver.
Ce sera juste. Surtout qu'avec les cakes, vous avez des dossiers, vous.
Oui.
Ce sera juste après les titres.
Je n'ai pas osé en parler.
Du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec Fabienne Lemoyle. Bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous serons en Vendée avec les cloches qui vont résonner dans quelques instants au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs en mer morts hier alors qu'ils portaient secours à un pêcheur en difficulté avec son chalutier marin qui est toujours porté disparu ce matin. 3 morts, lourd tribut à la tempête Miguel qui a touché la France. Vous entendrez des témoignages très émouvants des rescapés qui étaient à bord du bateau de sauvetage de la SNCM. C'est l'accident le plus grave qu'aient connu ces sauveteurs bénévoles depuis 1986. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons sur les États-Unis et le Mexique qui ont trouvé un accord sur la question de l'immigration illégale qui donne lieu depuis des mois de violents échanges entre les deux pays au point que Donald Trump menaçait d'appliquer des droits de douane sur tous les produits mexicains si Mexico ne s'engageait pas à prendre des mesures. Le dossier Nissan-Renault avec Europe 1 qui peut vous révéler que Bruno Le Maire va rencontrer la direction de Nissan lundi. Le ministre de l'économie qui est actuellement au Japon pour le G20 et qui se dit prêt à réduire la part de l'État français dans le capital de Renault comme le réclament les Japonais depuis longtemps. Nous reviendrons bien sûr longuement sur la formidable entrée en matière des Bleus avec leur victoire 4-0 sur la Corée du Sud hier soir au Parc des Princes pour le match d'ouverture du Mondial. Match qui a fait un carton avec 10 millions de téléspectateurs sur TF1. Un record du jamais vu pour un match de football féminin. Avec la sociologue Béatrice Barbus, nous verrons si cette compétition va permettre d'en finir avec certains préjugés sexistes. Et puis longue page aussi dans Tout Terrain avec Simon Rubin et Julien Froment qui ont commenté ce match hier en direct. Ce sera à partir de 13h. Direction maintenant Roland Garros.
Europe 1, en direct de Roland-Garros.
Et on retrouve Christophe Lamarre pour la suite de la deuxième demi-finale homme entre Djokovic et Dominic Thiem qui va reprendre ou qui a repris.
La partie va reprendre dans moins de 2 minutes. Plus exactement, les joueurs vont faire le retour sur le court central dans moins de 2 minutes. Avantage à l'Autrichien Dominic Thiem, hein, qui venait de faire le break dans le troisième set au moment de l'interruption hier après-midi. Il mène donc 3-1, service à suivre face à un Novak Djokovic que l'on souhaite plus calme et surtout moins tendu qu'hier. Rappelons que les deux hommes ont remporté chacun une manche. Ce troisième set permettra donc de faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre, sans préjuger bien sûr du résultat final. Juste derrière cette demi, la finale dames entre Marketa Vondrousova et Ashleigh Barty, deux inconnues à ce niveau. Elles n'ont jamais particulièrement brillé en grand chelem jusque-là, mais sur ce Roland-Garros, Barty comme Vondrousova ont joué un tennis épatant, parfois très loin des standards habituels. C'est une finale qui promet beaucoup et surtout, il ne devrait ni pleuvoir ni faire trop de vent.
Voilà, ce qui permettra de suivre les matchs dans leur intégralité. Merci beaucoup Christophe Lamarre. On se retrouve bien sûr pour un nouveau point à 12h30.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Merci beaucoup Fabienne. Votre rendez-vous gourmand continue sur Europe 1. Il est midi, bon appétit.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants. Le temps des cerises, un dossier sur les meilleures cuissons, un ketchup maison. La table des bons vivants prend soin de vous ce samedi et doublement, puisque Marc Lavoine est notre invité avec son bel album. Presque disque de platine, dites donc Marc Lavoine.
Je suis pas loin.
Je reviens à toi. Ça
fait un cheveu blanc.
Ah oui, mais ça y est. Oui, oui. On va y être vite. Non, mais c'est vrai qu'on a envie d'être votre copain. Quand on fait Non, mais je plaisante pas. Vous êtes généreux, vous êtes accessible. On vous a encore vu en plus le 1er avril faire un truc génial dans l'émission de Nagui. Oui. N'oubliez pas vos paroles. Vous êtes déguisé en candidat pour faire une surprise en chantant définitivement seul.
Oui. Seul définitivement. C'est vrai que quand Nagui m'a proposé ça, je me suis dit bon. Et puis je me suis dit, si, il faut le faire. Parce
c'est génial, la tête de la candidate qui vous dit qu'il y a un doute.
Et puis Nagui est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je ne pouvais pas lui refuser. Voilà.
Non, mais à l'heure de l'image, de je fais attention à comment je me montre, à ce que je raconte, on sent que vous êtes toujours vraiment dans le plaisir. Quoi.
Disons que les gens commencent à me connaître un peu quand même. Donc s'il y a un lien qui s'est tissé, c'est qu'une sorte de confiance. Je ne dis pas qu'on est intime, on ne se tape pas dans le dos. Mais on s'aime, quoi. On a une sorte de lien affectif, on a des valeurs, je sais d'où je viens. Donc voilà.
Vous avez le goût des voyages, Marc Lavoine, ouais. L'Afrique centrale, la Thaïlande, l'Afrique du Nord, le Japon. Vous avez eu de belles découvertes culinaires dans ces pays ?
Oui, mon dernier voyage, c'était l'Algérie. Je suis allé chanter là-bas. Et oui, on mange bien. Et puis, je suis retourné sur le lieu où habitait ma tante. Elle habitait avenue Mohamed V. Elle était mariée avec un Algérien qui est mort depuis. Je vais donc à cette adresse et je frappe à la porte. Et là, il y a un monsieur en Marcel qui faisait ses ablutions, qui m'ouvre la porte. Il me dit oui, ma tante habitait là, est-ce que je peux rentrer ? Donc je rentre, il y avait des enfants, il y a des grands-parents. J'arrive dans la cuisine et je vois un plat de semoule. Et ma tante faisait la semoule quand elle rentrait d'Algérie, avec les caravelles qui
l'a fait. Elle égrenait la semoule.
Et elle faisait la semoule toute la journée.
Très aérée.
Elle travaillait. Et donc dans la cuisine de ma tante, retrouver ce plat de semoule, j'ai vu que ça m'a vraiment retourné. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et le Vietnam, Hanoï. Qui est une ville absolument géniale.
Magnifique.
Une ville qui est une ville avec des arbres à l'intérieur, avec des. C'est pas une ville à dimension comme Saigon ou comme. Que j'aime bien, ou comme Bangkok, mais là c'est une ville qui est restée, une ville artistique, une ville poétique.
Et on mange bien partout dans les
rues. On y mange, mais divinement bien. Alors vraiment, j'ai beaucoup aimé ces deux pays, c'est les deux derniers parfums culinaires qui me sont restés. Et je trouve que l'Algérie et le Vietnam ont, avec la France, un même lien.
C'est vrai.
Une passerelle d'amour fragile. Parce que ce qu'on mange quand on est à table avec des gens, c'est important. Et donc je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup vos émissions, parce que vous la connaissez bien, la France.
Mais oui, le temps passé à table, le plaisir d'être ensemble et puis de passer du temps encore à table. On le disait la semaine dernière encore avec Jacques Attali, nous sommes le dernier pays à passer autant de temps à table.
Oui,
continuons à nous réunir et à discuter.
Et au lit.
Et au lit.
Si on peut passer de la table au lit avec une petite sieste entre les deux, moi ça ne me dérange pas.
Mais évidemment, faites la cuisine, faites l'amour, mais pas la guerre. Il est midi passé, vous êtes peut-être en train de passer à table. Alors on va vous donner une idée de dessert avec un classique de la pâtisserie, un cake au citron.
J'adore. Justement, j'en avais très envie. Alors ça tombe très bien.
Ça tombe très bien. Non, mais vraiment, c'est un dessert du week-end. Pour réussir le cake au citron, on vous emmène chez Pascal Lac, c'est un de nos meilleurs pâtissiers qui est installé à Nice. Et pour choisir le citron, il n'est pas allé très loin.
Bah non.
Il est allé à Menton. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 à Nice, ne recule jamais devant une petite douceur. Alors il s'est glissé dans la pâtisserie de Pascal Lac.
Il y a une histoire avec les citrons et les oranges.
De Menton, oui. Bien sûr. Mais
c'est la ville entière.
C'est une terre d'agrumes.
Absolument, absolument. Voilà.
Eh bien, écoutons justement la confection du cake au citron pour Marc Lavoine.
Alors moi je vais vous préparer un cake au citron. On a du beau citron de Menton avec ses feuilles. Alors le citron de Menton, il s'arrête bientôt. Là on est même presque à la fin. Mais même nous ici à Nice, on a même des citrons qui font ce qu'on appelle les 4 saisons. Alors là on a préparé des œufs, du sucre semoule, de la crème liquide. On mélange, on tiédit à 40 degrés. On met avant de le mettre sur le feu, mettez un bon coup de fouet, bien émulsionné. Attention, on ne cuit pas. Hein. Prochaine étape donc, on va incorporer notre farine préalablement mélangée avec la levure. Ça c'est très très important. Ne jamais mélanger la levure toute seule. On fouette bien le tout. Et puis là maintenant, on va commencer à chauffer le beurre à feu très très doux. À présent, notre beurre, il est fondu, tiède. On le mélange à la préparation et en même temps, on met notre zeste de citron. Et on mélange tout. Et là, on est énergique. Je tapisse mon moule à cake avec un papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous beurrez bien, vous mettez de la farine. Ensuite, donc, on met dans notre appareil à cake. On va entrer au four. C'est 160-170 degrés.
Et on enfourne 40 minutes.
Ce qui est bien, c'est d'enfourner chaud. Ensuite, on va faire notre sirop. Donc, vous avez récupéré votre citron tout à l'heure que vous avez zesté, au sucre. Et ça, on n'a pas peur, on le porte à ébullition. Donc là, ça y est, on sort notre cake du four. Et puis, on va le poncher, l'imbiber de ce sirop citronné. Le fait qu'il soit chaud, c'est important. C'est ce qui va vous donner la souplesse, le goût, le fondant du cake. Là, votre cake, il est réussi.
Ben, évidemment qu'il a réussi. Bravo, Pascal Lac.
La cuisine est érotique. Tous c'est, les mots employés par ce monsieur.
Non mais
monsieur,
les mots, il y a une sensualité.
Ouais, c'est magnifique. C'est sublime. Fourner chaud, c'est
moelleux. Et Marc poussait des soupirs vraiment de plaisir
très,
pendant le reportage.
Bon, il le déguste alors parce que Lucie Lescourou, notre rédactrice en chef qui vous accueillit tout à l'heure, Marc Lavoine, a fait le cake façon Pascal Lac exprès pour nous.
Il a fait. Bravo, réussi total. Fait. Très réussi.
Alors c'est important de tiédir, hein, comme il le dit Pascal, la crème, l'œuf et le sucre, ça permettra au cake de mieux monter.
Exactement. Hein, ouais. C'est ce que je fais toujours.
Vous le spécialiste du cake, Marc Lavoine. Et pour un cake volcanique. Pour un cake volcanique, n'oubliez pas les petits traits de couteau avant d'enfourner. C'est très important.
C'est quand j'ai mangé mexicain la veille.
Non mais en plus, c'était, oui. Je vais vous dire, c'était pas voulu. Mais après, en construisant cette émission, on s'est rappelé ce bêtisier où on vous voit avec Olivier Mine. Justement, où vous pleurez en train de parler
de
du cake.
J'ai Olivier au téléphone et on s'en parle et on rit encore. C'est-à-dire qu'on en rit encore. Ça fait longtemps, ça fait 15-20 ans que ça fait ce truc-là. On rit à chaque fois et dès qu'il le repasse dans un bêtisier.
On en rit encore aujourd'hui. Vous retrouverez la recette de ce cake au citron de Pascal Lac à Nice sur europe1.fr. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Marc Lavoine pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. Bon samedi les amis, prenez soin de vous, nous sommes là jusqu'à midi et demi. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Comme chaque samedi, vous êtes avec Laurent Mariotte à la table des bons vivants, une table où vous pouvez participer. Toute l'équipe vous attend au 3921, 50 centimes la minute, alors n'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Nous sommes en bonne compagnie ce samedi avec Marc Lavoine, chanteur, comédien. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous préférez entre les deux, mais quand vous avez quitté l'école à 16 ans, Marc Lavoine, c'était pour rejoindre une troupe de théâtre ?
Oui, c'est ça. Je faisais de la chanson avec mon frère. Dans des comités d'entreprise, on faisait des trucs à la guitare. J'étais à l'école d'imprimerie. Et puis j'ai quitté l'école pour faire du théâtre. Et je travaillais à l'Olympia en même temps.
Mais vous étiez ouvreur à l'Olympia en 79.
J'ai tout vu passer, c'était fantastique parce que j'étais à la maison. Ils m'ont vraiment. Je les remercie tous les jours. C'est grâce à la famille Cocatrix, à Monique Salmon, Jean-Michel Boris que tout a démarré là. Et c'est eux qui m'ont présenté Madame Aboulker aux éditions du Rideau Rouge qui était tenu par Gilbert Bécaud et j'ai rencontré mon parrain Julien Clerc et puis j'ai pu faire mes premiers disques.
L'enfer de Claude Chabrol, Si c'était lui, Le cœur des hommes, Samuel Kepler récemment sur France 2, un grand succès d'ailleurs. Vous passez du temps sur les plateaux de cinéma, oui. On y mange plutôt bien ou sinon sur les plateaux de cinéma?
Avec Chabrol c'était une condition centrale. Le tournage se faisait autour des restaurants, la cantine était extraordinaire et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Tony Gatliffe sur Liberté, on était avec des Digan et on avait créé un café qui s'appelait Liberté et on faisait à manger. Alors, il se faisait ses pieds de cochon, lui, parce qu'il adore ça. Non, mais c'est vrai.
Super.
Et donc, il faut bien manger, oui. Je pense qu'une équipe.
Équipe soudée. Évidemment, oui, c'est la base. Hein. Je pense à Eric Laven, qu'on a reçu ici, qui est un réalisateur de cinéma, qui choisit vraiment les cantines de ses tournages pour vraiment
nous,
bien manger.
Quand on part en tournée, on fait attention aux catering. On vient. Et Johnny faisait ça, il goûtait chaque plat. Il disait ça, c'est moyen, vous pouvez pas faire un autre truc pour les musiciens. C'était important pour lui que les musiciens mangent bien.
Alors agriculture, alimentation, produits de saison, vous le savez, chaque samedi, vous avez la parole au 3921 pour poser vos questions. Une première question sur notre répondeur.
Bonjour la table des bons vivants, ici Hélène de Toulouse. Ma question concerne la cuisson unilatérale. Alors à quel poisson vaut-il mieux appliquer ce type de cuisson et comment savoir quand la cuisson est terminée ? Merci.
Il y a plein de poissons qu'on peut faire cuire à
l'unilatéral.
Le saumon, le cabillaud, le maquereau.
J'adore le rouget.
Ah bah, il cuit de peur, comme dit Jean-François Piège. C'est des poissons qui cuisent de peur, ça.
Ah bon ?
Ah oui, à l'huile. Ah oui, c'est à peine 2 minutes, un rouget, par exemple. Ah. Et si vous voulez pas que ça attache, si vous voulez pas que le rouget attache sur votre plancha ou dans votre poêle.
Sur la plancha.
Sur la plancha. Un petit papier sulfurisé avec de l'huile d'olive par-dessus.
Faut bien beurrer.
Le
cabillaud, c'est quand même un poisson extraordinaire, non ?
Alors, un poisson extraordinaire, mais qui est de plus en plus menacé, donc c'est bien d'aller vers d'autres espèces, comme le chinchard, le taco, le maigre,
très bon,
le merlan aussi.
Et le merlan et le merlu.
Et le lune merlu, qu'on embrasse. Une autre question au 3921.
Bonjour Laurent, je suis Anne et j'habite le Creusot. De temps en temps, je fais des pique-niques avec mes petits-enfants et je voulais avoir un petit conseil. Ils mangent énormément de chips lors des pique-niques. Par quoi on peut remplacer ? Voilà, je vous remercie de votre aide, Laurent. À bientôt, merci.
Merci de votre fidélité, Anne. Et bien, les chips.
Ah non, mais c'est
très grave.
Et en même temps, ça va avec les pique-niques, quoi.
Un petit truc pour faire des chips maison, Anne, leur femme.
Anne, si vous voulez copier les chips, ça va se passer avec votre friteuse. Et vous allez prendre aussi une mandoline pour trancher très finement.
Très finement,
c'est parfait. Et vous pouvez faire tremper vos tranches dans un bain d'eau froide et les sécher au torchon. Et ensuite, les passer à la friteuse à 180. Vous pouvez aussi choisir l'option four. C'est un peu moins gras. Et c'est le même principe. Vous pouvez tenter la même chose d'ailleurs avec des légumes. Oui. Moi, je sais que pour les carottes ou les patates douces,
du céleri, même ça
le
peut
céleri,
marcher.
Le céleri, ça passe très bien. Essayez.
Ce qui est pas mal à la place des chips, c'est de faire des fèves dans ce cas-là, non ?
Aussi, mais faut les manger nature. Ça n'a absolument plus rien à
voir. Tu peux les faire un peu
en chips. C'est compliqué la fève en chips.
Mais un peu, tu sais, revenu cuit,
c'est
hyper bon. Ça
cuit à l'eau bouillante, on retire la peau et puis on les enrobe d'huile d'olive.
Le pique-nique de Marc est particulier.
Mais en revanche, je sais pas si les enfants vont tout de suite accrocher ça.
Ah, moi, j'ai des enfants, ils aiment la fève.
Ah si, les fèves et les petits pois, il faut les marier.
Fèves, petits pois.
Dans un taboulé, par exemple.
Exactement.
Avec de l'orge perlée ou de l'épeautre, on est bien.
Tu sais me parler.
Marc Lavoine est notre invité, il est venu avec son tout dernier album.
Je suis très heureux d'être là.
Eh ben, on est ravis que vous soyez là, justement. On va vous découvrir dans un instant de l'autre côté de la fourchette, cher Marc Lavoine, avec le questionnaire des bons vivants et la chronique d'Olivier Pouls. A tout de suite sur Europe 1. Bon samedi midi, les amis.
11h, 12h30. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Europe 1.
Quoi de mieux pour se réconforter qu'une bonne part de cake au citron ? En tout cas, c'est pas Laurent ni Marc Lavoine qui vous diront le contraire.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien ! Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Oui, Justine, une belle part de cake au citron et ça redémarre. La recette de Pascal Lac, d'ailleurs, vous attend sur notre site europe1.fr.
Ça marche bien avec la mangue.
En plus, c'est un bel accord. Bon vivant, bon mangeur, le plaisir de la table est important. Pour vous, Marc Lavoine, à table, il fallait finir son assiette à la maison. Hein.
Oui, mais quand mon père a acheté une voiture, une Ford Capri, on a mangé des pâtes, du riz et des nouilles et des pommes de terre pendant 1 an et demi.
Bah oui, c'est ça.
On a mangé que
ça. Fallait la payer, la Ford Capri.
Et les week-ends, elle changeait. Elle faisait des sautés, des pâtes sautées, des potates sautées, elle faisait des spaghettis, après elle faisait du riz comme ci, mais on mangeait que ça.
Vous avez écrit un super livre sur votre papa, L'homme qui ment. Vous en préparez un sur votre maman ?
Oui, j'en prépare un sur ma maman.
Votre maman qui était une bonne cuisinière. Hein.
Très, très. Enfin, mon père aussi. Hein.
Qu'est-ce qu'il faisait votre papa alors ?
Mon père, il faisait la blanquette de veau, le petit salé aux lentilles.
Ah oui.
Il était super doué, c'était les plats qu'il préférait. Il les faisait très, très, très bien.
Votre maman, le bourguignon, hein, c'est ça ?
Voilà, le bourguignon. Plein d'autres choses, mais c'était leur plat, le pot-au-feu. Et ma tante faisait le couscous.
Alors, vous êtes venu avec votre dernier album, hein, Je reviens à toi. Ouais. Vous êtes en tournée dans les festivals hein, tout l'été. Ouais. Je donne quelques dates. Tiens, le 28 juin à Haute-Rive, le 3 juillet à Albi, le 19 juillet à Apt dans le Luberon, 21 juillet à Pierrelatte. On va vous retrouver sur les scènes hein, cet été. C'est important cette rencontre avec le
c'est
public.
C'est
génial
le festival. Quand on était sur le cœur des hommes, Campan avait un... parce qu'il savait que je faisais la tournée.
Bernard Campan.
Il avait inventé un jingle. Il faisait la France des fesses, la France des tis, la France des vals, la France des festivals. Et c'est vraiment... c'est très important de faire des festivals parce que c'est voilà, c'est une autre façon de faire de la musique, c'est une autre façon de faire de la scène, c'est pas comme la scène musicale ou comme le spectacle que je présenterai à Playel, c'est autre chose, mais c'est très amusant et j'espère faire ceux de cette année et ceux d'année.
C'est une, évidemment, c'est une belle façon de découvrir la France, et il y a une autre belle façon de découvrir la France, figurez-vous, cher Olivier Pouls, c'est l'œnotourisme. Se balader dans une région viticole et s'arrêter comme ça, ci et là, chez des vignerons,
avec
dans des établissements,
avec Jean Carmet.
Mais on aurait adoré connaître Jean Carmet. Vous l'avez connu, Jean Carmet?
Je l'ai croisé, croisé quelques fois, parce qu'il connaissait tous les horaires de train. Spécialiste des horaires
de
train.
Ça.
Et on était un jour, et je lui dis, pour faire tel trajet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a répondu, change là, tu prends le temps de tel.
Magnifique.
Non, mais des types comme eux, comme Jean-Yann, comme Jacques Martin, c'était une. Voilà, j'aime bien ces gens. Quoi. Et puis ces gens aiment la table, ils aiment le vin.
Alors, dans quelle région vous nous embarquez, Olivier, pour faire de l'œnotourisme?
Eh bien, je vous emmène dans une des plus belles régions viticoles de France et la plus vieille route des vins, c'est en Alsace.
Ah oui.
C'est une route des vins qui a été créée en 1953, figurez-vous. Elle fait 170 km, 73 communes. Vous allez parcourir 51 grands crus de Marlenheim à Tannes. Franchement, allez découvrir cet endroit. D'abord, vous allez traverser des villages de cartes postales. L'Alsace, c'est magnifique.
Le massif vosgien en fond de décor.
Ces maisons à colombages.
La ligne bleue des Vosges.
La ligne bleue des Vosges. C'est absolument superbe. Et donc, je vais vous proposer quelques arrêts, évidemment, tout au long de cette route.
Et comment? Alors, on commence par quoi?
Eh bien, on pourrait s'arrêter à Kaisersberg, par exemple, et aller faire un petit coucou à notre ami
Olivier Nasty, qui est venu ici
il n'y a pas très longtemps. On peut aller manger une petite flammekuche là-bas.
Flammekuche, yo.
Et puis surtout, là, on va visiter un village qui est absolument somptueux, surplombé par un grand cru, le Schlossberg. Aller pique-niquer dans les vignes, par exemple, aller arpenter ce terroir du Schlossberg, qui est un terroir qui donne des vins somptueux. Et vous allez voir aussi ce que représente la difficulté de travailler ces vignes.
Il y a Colmar qui est magnifique. Alors, il n'y a pas de vignes dans Colmar, mais ça fait partie de la route du vin aussi.
Alors, Colmar, c'est la capitale des vins d'Alsace. Magnifique ville, on le dit, c'est la petite Venise alsacienne avec ses canaux, c'est superbe. Et là, vous pouvez vous arrêter dans le domaine viticole de la ville. Il a été créé en 1895. Ce sont les fameux hospices de Colmar. Et on peut y déguster et y acheter du vin, bien sûr.
Et un troisième arrêt, tiens, nous conseiller sur cette belle route des vins.
Eh bien, on va la poursuivre, cette route. On va descendre la D83 en direction de Tannes. Et les beaux villages vont s'égrener. On va passer par Pfaffenheim, Gubwiller, Ruffach. Et puis surtout, ce qui est fantastique en Alsace, c'est qu'on peut encore s'arrêter et acheter du vin chez des vignerons qui auront le soin de vous accueillir et de vous faire découvrir leur cuvée.
Quelques bonnes adresses, tiens, justement.
Allez, je vous en donne trois. Marc, je vous ai apporté un vin rouge. Parce que c'est vrai qu'on associe souvent l'Alsace, très souvent, et c'est vrai
au blanc.
C'est la grande majorité des vins qui sont produits au blanc, mais il commence à se produire là-bas des vins rouges absolument superbes. Ça, c'est sans doute l'un des meilleurs.
T'as une bonne descente.
Ouais.
Non, c'est la rétro-olfaction, justement. C'est la rétro-olfaction.
Et donc, celui-là vient du domaine Albermann, que vous trouverez à Mittelwier. Alors, deux autres domaines, Henri Fuchs, Harry Beauvillet et Schlumberger à Gubwiller, par exemple. Des domaines qui proposent des prix tout à fait raisonnables.
Eh bien, merci Olivier, on retrouvera les références sur europe1.fr. Marc Lavoine, c'est l'heure de vous passer à la casserole avec le questionnaire des bons vivants.
Je suis ravi.
C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Marc?
Les noix et les cerises, les Napoléons.
Votre plus beau repas, Marc Lavoine, dans le sens inoubliable?
Vous savez, c'est dans les Causses, avec des copains. On était en Occitanie, on montait dans les Causses sur les oppidums, avec une miche de pain, comme ça, un petit truc de ratafia. Quelques tranches comme ça de jambon, et puis on écoutait de la musique en regardant de la hauteur comme ça la vallée du Lot avec ses lacets magnifiques et au fond là-bas vers Cahors le pont va l'entrer. Et voilà, ça c'est
pour moi,
c'est des repas comme ça sur l'herbe, un peu à la Bobby la Pointe avec une marguerite dans la bouche et dans l'herbe. Ouais, ça c'est bon.
Quel est votre pire repas?
Le pire repas, c'est les repas. J'aime pas manger dans l'avion, par exemple. Ils ont des très grands chefs qui travaillent dans les avions et c'est très bon. Mais d'abord, ça me fait ballonner. Voilà. Et donc, j'aime pas trop manger dans les avions, mais j'aime beaucoup les avions.
Quel est le plat que vous ne pouvez pas manger, Marc Lavoine?
Il n'y en a aucun. Je crois que je peux tous les manger.
C'est beau, c'est un vrai bon vivant.
J'ai aucun problème.
Quel plat mèneriez-vous sur une île déserte?
Quel plat sur une île? Je mènerais sûrement un petit plat de riz, quoi. Du riz, quelque chose de simple, une sorte de nasi goreng, un truc comme ça, un truc, tu vois, facile pour manger sur la plage avec ma douce.
Quel est votre mot préféré en cuisine?
Chaud devant.
Ah, c'est beau. Ah, c'est bien ça, oui. Oui, c'est vrai, on l'entend dans les cuisines, ça. Attention quand il y a du service. Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Vous, par exemple, hein, ça serait bien.
Ah bon, on sera là avec plaisir.
On prend date.
Ah ouais, bah prenons date, faisons un dîner un soir, on va bien se marrer.
Ah bah oui, oui, ouais. on va prendre une date dans l'agenda des bons vivants. Absolument. Votre adresse secrète, tiens, Marc Lavoine.
Ah non, je ne peux pas te la dire.
Non, c'est logique. Et quel est le dernier plat que vous avez cuisiné?
Des spaghettis à la poutargue.
Oh, c'est bon, ça. Ouais. Un petit peu d'huile d'olive aussi pour la liaison.
Hein. Bien sûr. Et alors, on peut mettre poutargue et vongolais en même temps.
Oui, avec des coques, par exemple, des palourdes.
Ça marche bien.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Marc Lavoine.
Le mot de la fin est FIMM, tu veux que je dise quoi?
Par rapport à la table, durable encore, le plaisir, les copains, la communion.
Trintignant m'a dit un jour, si un chameau peut travailler 5 jours sans boire, un homme peut boire 5 jours sans travailler.
Voilà le mot de la fin.
Le
mot de la soif.
Merci beaucoup Marc Lavoine, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle votre sublime album qui vient de sortir il y a un an, hein, et il est encore tout frais. Je reviens à toi, avec Ma Papou qu'on a entendu, qui est votre dernier extrait. Moi j'aime beaucoup Si on se quittait. Enfin bref, il y a plein de belles chansons mélancoliques. Merci d'être venu à cette table, c'était un plaisir. Vous retrouverez cette émission sur europe1.fr avec toutes les recettes. La fameuse recette du cake au citron, les recettes de cerises. Bon week-end, faites le marché.
Et le caramel à la mangue, t'en as pas parlé, mais c'est bien.
C'est un cadeau de Jacques Génin, un caramel à la mangue et à la passion, qu'Yves Candebord a laissé depuis la semaine dernière, mais il est toujours aussi mou et il colle pas aux dents, vous allez voir.
Très bien.
Bon week-end, faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end, Justine. Merci Marc Lavoine.
Merci à vous.
Bon week-end Laurent, à samedi prochain, 11h. Et pour patienter, on peut réécouter bien sûr cette émission sur europe1.fr. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouvez Fabienne Lemoyle avec votre journal de la mi-journée. Et puis à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Gillot pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors bon samedi avec Europe 1, il est midi 27.